Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous, bonsoir Nathalie, bonsoir Théo. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver ce soir pour vous donner de nouvelles recettes. Alors aujourd'hui, on va un peu sortir des sentiers battus. Je vais vous faire découvrir des recettes qui sont un tantinet originales, mais qui sont de saison et délicieuses. Nous allons commencer donc par les ingrédients et matériels, comme à chaque fois. Donc on a choisi les champignons au potimarron. Alors je sais, vous allez dire, oui, on en a eu la semaine dernière. Mais c'est la saison, voilà. Et donc pour ces champignons au petit marron, vous allez avoir besoin de 12 gros champignons de Paris, ou tout simplement de 20 g de beurre, d'un jus de citron, de 400 g de potimarron, de 20 cl de crème épaisse, de 50 g de noisettes et de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un couteau, d'une sauteuse avec son couvercle, d'un cuit-vapeur, d'un mixeur, d'un presse-purée, d'une cuillère en bois et une cuillère à soupe. Là, ce soir, pour le plat, ça sera du parmentier de canard au potimarron. On est tout dans le potimarron aujourd'hui. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Vous achetez un potimarron et vous faites tout en même temps. Alors, il faut qu'il soit un peu plus gros, mais vous pouvez vous faites tout. On aura besoin de 4 à 5 cuisses de canard confites. Donc ça, vous le trouvez en boîte, hein, voilà, en conserve. C'est tout aussi bien. Moi, perso, je préfère les faire. Je préfère les faire. Et en général, je me sers du reste. Mais il n'y en reste jamais, donc c'est une catastrophe. Moi, quand je fais du confit de canard, il ne reste jamais de reste.
C'est que c'est bon.
Oui, voilà. Mais c'est aussi simple hein, d'ouvrir la boîte que de le faire en confit soi-même. Mais ça sera une autre recette. Il nous faut donc 4 à 5 cuisses de canard confites, un potimarron, une cuillère à soupe de 4 épices. Donc c'est une épice, vous allez trouver ça dans les magasins. 35 g de beurre, 4 à 5 cuillères à soupe de chapelure et du sel et poivre et une belle salade d'hiver, peu importe la salade que vous prenez de saison. Côté matériel, vous aurez besoin d'une assiette, d'un plat à gratin, d'un économe, d'un faitout, d'un presse-purée, d'une spatule et d'une fourchette. Et puis, on va faire une tarte choco-grenade, tarte au chocolat, hein, bien évidemment. Pour ça, on aura besoin de 400 g de noisettes. 40 g, oui, oh là. 40 g de poudre de noisettes. 30 g de cacao non sucré, donc pour ne pas nommer la marque Van Houten, c'est la mieux. Après, vous faites...
Il y en a d'autres maintenant.
Il y en a d'autres.
Ils sont tous mimés.
Mais bon, voilà, enfin, moi j'utilise celle-ci. Un jaune d'œuf, une grenade, vous voyez, juste une, ça suffit. Et puis 110 g de farine, 10 g de beurre.
90 g.
90 g.
Je te reprends, je me permets.
Oui, tu as raison. Je suis tellement lancée dans ma recette que je ne lis pas forcément mon texte. 90 g de beurre, 45 g de sucre glace. 270 g de chocolat noir, 200 g de crème liquide entière. Et vous aurez besoin d'un plus gros matériel cette fois-ci, d'un robot mixeur, de deux moules à tarte, un moyen et un grand, je vais vous expliquer pourquoi, d'un saladier, d'une casserole, d'un fouet, d'un rouleau à pâtisserie ou une bouteille en verre, style bouteille pour pas nommer Bordeaux. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, il faut qu'elle soit droite. pour remplacer le rouleau.
Après, ça peut être des bouteilles de cidre, de vinaigre, de cidre, de choses comme ça. Ils ont des grandes
bouteilles.
Il faut qu'elles soient rondes
et assez longues de façon à pouvoir étaler la pâte. Mais bon, beaucoup de gens ont des rouleaux.
Oui, maintenant, tout le monde a un rouleau à pâtisserie.
Voilà, je pense. Si vous n'en avez pas, faites avec la bouteille. Alors, pour commencer, on va commencer par les champignons au petit marron. Mais avant de commencer, j'aimerais, Nathalie, que tu nous parles un petit peu des champignons.
Eh oui, les champignons, les fameux champignons. Alors, ils descendent de l'agarique champêtre, appelé aussi rosée des prés à l'état sauvage. Il est cultivé sous le nom de champignon de Paris ou champignon de couche. Il est reconnaissable à sa chair blanche et à son chapeau rond. Tout lisse, d'un blanc velouté, le champignon de Paris a des lamelles roses lorsqu'il est jeune et elles noircissent en vieillissant. Il est attaché au pied par un voile quand il est très jeune, on n'aperçoit pas ses lamelles. Puis il s'ouvre en laissant un petit anneau sur le pied, il s'aplatit en vieillissant, il se déguste aussi bien cru que cuit et il se cuisine de mille façons. En réalité, d'un peu plus loin que la capitale française, le pays d'origine du champignon de Paris, c'est pas Paris. Répondant au nom scientifique d'Agarius bisporus serait d'Égypte, donc c'est bien plus loin. En effet, on trouve le fameux champignon dessiné sur les murs des tombeaux des pharaons datant de 1450 avant Jésus-Christ. On le retrouve ensuite chez les Romains, qui s'en emparent. Enfin, gastronome, en France, ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'on retrouve ce précieux aliment sur la table du roi Louis XIV au château de Versailles. Vers 1670, la Quintini, jardinier du roi Louis XIV, pas du tout Louis XIV, si, Louis XIV, en débute la culture sur surcouche en plein air dans les jardins royaux de Versailles. En 1810, le maraîcher Chambry le transfère en culture de champignons de Paris dans les carrières au sud de la capitale pour les protéger des aléas climatiques. Il a l'idée d'humidifier et d'aérer les couches en ventilant des sites de culture. C'est bien plus tard, sous Napoléon Ier, que la culture des champignons se développera dans les catacombes de Paris, ce qui lui valut son nom, champignons de Paris. Il est produit à Paris jusqu'en 1895, où les travaux du métro mettent un terme à sa culture dans les carrières abandonnées du sud de Paris, devenant un obstacle pour la construction des métros. Sa culture fut délocalisée dans le Val-de-Loire en 1895. La Touraine et le Saumurois représentent aujourd'hui les trois quarts de la production française. La culture souterraine s'est d'abord pratiquée sur couche, puis en sac ou en caisse. À la fin du XIXe siècle, plus de 300 producteurs cultivaient le champignon de Paris pour un total de 1000 tonnes annuelles en 1875. 3 millions de paniers sont livrés aux Halles de Paris. Il est cultivé industriellement en champignonnière, oui c'est ça, dans d'anciennes carrières ou dans des caves. La température doit y être constante et les locaux bien aérés. Le substrat de culture est constitué de paille, de fumier de cheval, de gypse, donc le sulfate de calcium que l'on fait composter puis que l'on ensemence avec le mycélium du champignon.
Merci Nathalie. Plein d'histoires. Ouais. Est-ce que vous saviez, maintenant on le sait tous, mais ça pousse tout seul, hein. Vous pouvez le faire chez vous, hein.
Champignon de Paris, oui, si vous avez une cave, un endroit plutôt sombre et aéré.
Sombre et aéré, il existe en jardinerie des sacs prêt à l'emploi, c'est-à-dire que c'est des sacs un petit peu en style des tubes avec des trous à l'intérieur et quand vous allez humidifier, vous allez voir les champignons sortir.
Voilà, ils sont prêts à l'emploi.
Oui, ils sont prêts à l'emploi.
J'ai jamais vu ça, tiens.
Voilà, dans certaines jardineries, il y a ce genre de choses. D'accord. Là, c'est assez rigolo.
C'est bon, ça va.
Voilà, mais il faut savoir que quand on a une température comme en ce moment, les champignons sortent. Faites attention quand vous les ramassez, ils ne sont pas forcément comestibles.
Il faut aller à la pharmacie, je pense, pour aller les faire.
Donc, dans nos jardins, on en a qui poussent.
Oui, j'en ai, moi.
Mais moi, je n'ai jamais mangé ce que je trouvais dans le jardin parce que j'ai toujours peur de m'empoisonner. Et franchement, j'ai pas... Alors, c'est un bon compost aussi, hein. Vous pouvez le mettre dans le compost, champignons, c'est bien, hein.
Ouais.
Voilà. Bien, écoute, merci Nathalie pour cette culture et cette histoire. Maintenant, nous allons un petit peu passer à l'explication de notre recette et on va cuisiner. Donc pour ça, donc je vous rappelle les ingrédients. On aura besoin de 12 gros champignons de Paris, bien évidemment, 20 g de beurre, un jus de citron, 400 g de potimarron, 20 centilitres de crème épaisse, 50 g de noisettes, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et côté matériel, on aura besoin d'un couteau, d'une sauteuse avec son couvercle, d'un cuit-vapeur, d'un mixeur, d'un presse-purée, d'une cuillère à soupe et d'une cuillère en bois. Pour cette recette, il faudra prévoir à peu près 20 minutes de préparation et compter 25 minutes de cuisson. Donc pour commencer, on va déjà supprimer la partie sableuse ou terreuse, parce que le champignon, ou il est cultivé dans la terre ou le sable. Il faut que pour qu'il puisse pousser, c'est un mélange des deux bien souvent, il faut que la terre soit légère. Donc vous nettoyez bien, vous n'allez prendre que en fin de compte le chapeau du champignon. C'est pour ça qu'on fait le gros. Alors, pour le pied, vous le nettoyez bien, vous le rincez et vous pourrez en faire un potage un velouté de champignons.
Voilà. Ou dans une omelette.
Ou dans une omelette, tout simplement. Et ça sera pour une autre émission qu'on fera avec ce champignon. Vous allez voir, un velouté de champignons, c'est super bon aussi. Voilà. Une fois que vous avez bien nettoyé, vous allez dans une sauteuse. Mettre vos têtes, vos chapeaux dans une sauteuse assez profonde et vous allez les... Donc la sauteuse, il faut qu'elle soit assez profonde parce que vous allez mettre à mi-hauteur de l'eau. Et vous allez les cuire et vous mettez un petit peu de beurre dans votre sauteuse et vous mettez le jus de citron. Ça évite qu'ils noircissent de trop. Et vous allez cuire à couvert, donc avec le couvercle, pendant 8 à 10 minutes vos têtes de champignons. À partir de l'ébullition, hein, c'est pas à froid, c'est à partir de l'ébullition qu'on compte les 10 minutes. Ensuite, vous allez laver votre potimarron. Et utilisez l'épluche légumes et vous allez retirer les graines et les couper en morceaux. Là, cette fois-ci, j'enlève la peau. La semaine dernière, on a dit...
qu'on pouvait, si tu l'avais enlevé, tu faisais des chips avec.
Voilà, mais on peut très bien ne pas l'enlever.
C'est vrai.
Mais là, cette fois-ci, moi, je le fais parce que j'ai envie d'une texture bien moelleuse. On va placer donc dans le cuit-vapeur, donc ça, c'est une autre cuisson, parce que la semaine dernière, on l'avait mis à la casserole directement. Là, on le met dans le cuit-vapeur. Et on va faire cuire 15 minutes. Une fois que vous aurez fait ces 15 minutes, vous laissez votre petit marron refroidir et vous allez mixer vos noisettes. Donc, alors, si vous avez pris de la poudre de noisettes, tant mieux. Mais voilà, moi, j'utilise ce que j'ai surtout. Donc on va mixer la noisette et quand le petit marron a fini de cuire, on va mettre dans un saladier à l'aide d'un presse-purée, donc on va ou d'une fourchette, hein, c'est comme on veut, écraser le petit marron en ajoutant l'huile d'olive bien évidemment et la crème. Et puis enfin, vous finirez par la poudre de noisette et vous salerez et poivrez. Vous mélangez bien tout ça, donc ça vous fait une espèce de purée un peu épaisse, hein, puisque vous avez la noisette qui va épaissir. Et vous allez farcir vos champignons. Avant ça, on les a cuits, donc il faut les égoutter, bien évidemment, les sortir de la cuisson. Et puis, vous allez farcir vos champignons, donc l'intérieur du chapeau. Et puis, vous allez déguster ces champignons farcis ou chaud ou froid, c'est selon votre envie. Donc ça, vous pouvez préparer ça à l'avance, il n'y a aucun problème. Alors, un petit conseil pour la purée qui peut être mélangée avec de la carotte, pour donner notre goût, ou de la pomme de terre, ou alors encore de la patate douce. Vous mélangez la patate douce avec le potimarron et vous allez voir, c'est succulent. C'est un mélange salé sucré, c'est assez sympa. Et bien voilà, donc encore, et toc, je dirais même toc, on a encore une recette facile et délicieuse. Voilà. Ben, avant de passer au parmentier de canard, je vous propose une pause musicale. À tout de suite.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici et nous allons poursuivre notre émission avec le parmentier de canard au potimarron. Alors, le parmentier de canard, moi je l'ai fait au potimarron parce que c'est la saison, mais vous pouvez très bien le faire avec de la pomme de terre, hein, oui. ou mélanger pomme de terre, carottes, patates douces, comme ce qu'on a fait au-dessus avec les champignons. Donc c'est la pleine saison de potimarron, donc on va en profiter. Maintenant, voilà, si vous avez envie de faire à un moment donné que des champignons avec farci avec la purée de pommes de potimarron, faites-le. Si vous avez envie de faire du parmentier un autre jour, voilà. L'idée de ces recettes, quand je vous donne, c'est pas forcément de suivre à la lettre pour
oui,
un
faire
menu.
Le menu complet.
Le menu complet. Vous allez piocher à droite à gauche ce que vous avez envie et ce qui est de saison, c'est l'avantage de la radio et de l'émission surtout. Voilà, alors on va déjà je vais vous répéter un petit peu les ingrédients, mais avant ça je vais vous, donc il faut prévoir 20 minutes de préparation et une heure de cuisson pour ce parmentier qui va se décomposer en heure de cuisson, puisqu'on va cuire dans un premier temps les cuisses de canard et après dans un deuxième temps le parmentier. Pour les ingrédients, vous aurez donc besoin de 4 à 5 cuisses de canard confites, un potimarron, une cuillère à soupe de 4 épices, 35 g de beurre, 4 ou 5 cuillères de chapelure, tout dépend de la grosseur de votre plat, donc de la chapelure, du sel et du poivre, une belle salade de saison, bien évidemment, pour accompagner. Et puis, côté matériel, vous aurez besoin d'une assiette, d'un plat à gratin, d'un économe, d'un faitout, d'un presse-purée, d'une spatule et d'une fourchette. Alors pour commencer, vous allez déjà commencer par mettre votre four en préchauffage à 6 de donc thermostat 6, 180 degrés. Vous allez placer les cuisses dans votre plat à gratin en ayant retiré, donc vous n'allez pas mettre toute la graisse, hein, ça ne sert à rien de mettre toute la graisse qui entoure, donc vous enlevez une bonne partie de la graisse et vous mettez dans votre plat à gratin les cuisses et vous enfournez 20 minutes de façon à cuire, à réchauffer et à cuire ces cuisses de canard. Surtout, vous ne jetez pas la graisse. Vous la mettez dans un pot avec un couvercle au frigo. Elle va se resolidifier et vous pourrez vous en servir pour cuisiner des pommes de terre sautées. Vous aurez ce goût de graisse de canard qui est super bonne. Enfin, voilà, c'est pas très très bon pour la santé. C'est pas très très bon pour la ligne,
mais
c'est bon dans le ventre, voilà, et sur le palais. Voilà, on va revenir un petit peu à notre parmentier. Donc, on a mis au four nos cuisses de canard. On va couper maintenant notre petit marron. Là, vous ne l'épluchez pas forcément, d'accord ? Autant tout à l'heure, on l'a épluché, autant là, on ne va pas l'éplucher. On va le couper en morceaux et on va enlever la partie filandreuse avec les graines. Donc, avec les graines, donc encore une fois, hein, les graines vous les gardez. Je vous ai expliqué la semaine dernière ce qu'on en faisait. Si vous voulez enlever la peau, ben vous l'enlevez, vous pouvez. Ça s'enlève très facilement avec un économe ou un couteau. Le potimarron, vous le taillez en cubes et puis vous allez le plonger 20 minutes dans un faitout d'eau bouillante. Donc là, vous voyez, c'est encore une autre façon de le cuire. On n'a pas pris le cuve-vapeur, on n'a pas pris la casserole sans rien. Là, on le plonge dans l'eau bouillante. L'eau, elle doit être légèrement salée. C'est mieux, donc vous rajoutez une cuillère à café de gros sel ou une pincée de gros sel, ça dépend ce que vous aimez en goût salé, mais ça ne restera pas sur le potimarron, c'est juste pour qu'il puisse bien sortir au niveau de l'eau et qu'il soit légèrement salé. Une fois qu'il a cuit pendant 20 minutes, vous allez l'égoutter Et vous allez l'écraser avec le presse-purée, évidemment, dans un saladier. Et vous allez incorporer dedans 25 g de beurre. Et vous allez rajouter les 4 épices dedans. Donc, vous mélangez bien. Si vous n'avez pas de 4 épices, vous pouvez vous utiliser de la noix de muscade. C'est bien aussi. Voilà, vous mélangez bien l'ensemble. Une fois que vos cuisses de canard sont cuites, vous allez laisser refroidir un petit peu ça parce que vous allez devoir retirer la peau. Et si vous le faites à chaud, vous risquez de vous brûler parce que c'est très très chaud, surtout la peau. Et puis vous allez essayer de détacher. Normalement, une fois que c'est cuit, c'est recuit, puisque le confit de canard, oui, c'est déjà cuit. Vous allez pouvoir effilocher donc le dos et ressortir l'os. Bon, vous dégagez les os, vous les jetez et vous gardez la viande, mais qu'elle soit effilochée. Et vous allez la mettre dans le fond de votre plat à gratin. C'est tout simple à faire. Vous répartissez donc tous vos lanières de canard au fond du plat à gratin. Et par-dessus, vous allez mettre la purée de potimarron qu'on vient de faire. Voilà, tout simplement. Et vous allez égaliser avec une spatule. Et puis, vous allez dessiner des motifs avec les dents de la fourchette. Voilà, sur cette recette, amusez-vous, soyez créatifs. Mettez un prénom dessus avec une fourchette ou mettez un gros cœur. Vous allez saupoudrer de chapelure. Donc, la chapelure, je ne vous dis plus comment on le fait, c'est assez simple. Et vous allez parsemer du reste du beurre que vous n'avez pas utilisé. Couper en petits morceaux sur toute la partie du parmentier. Et vous allez enfourner 20 à 25 minutes. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous faites attention, vous surveillez bien la cuisson, la coloration, parce que ça peut aller très vite. Et vous allez servir très chaud, ou chaud, c'est mieux, accompagné d'une belle salade d'hiver. Voilà.
C'est la période là.
Oui, on peut. Alors, vous avez la feuille de chêne, vous avez feuille de chêne d'hiver. Moi, j'en ai encore dans le jardin. J'espère qu'il va pas geler tout de suite de façon que je puisse finir de la manger. L'endive, effectivement, c'est la saison, ou de la roquette si vous aimez quelque chose un peu plus épicé. Voilà, il y a des salades d'hiver. Il faut les utiliser, il faut les manger. Et puis, comme je dis toujours, mange de la salade, tu ne seras jamais malade. Voilà, c'est un truc que je dis régulièrement. Parce qu'on retrouve très souvent dans mes recettes une salade. C'est sympa. Nathalie, est-ce que tu peux nous raconter sur ce plat qui est un hachis parmentier,
Oui, c'est ça. C'est le hachis parmentier. C'est un plat à base de purée de pommes de terre et de viande, de bœuf haché ou de canard, comme ce soir. Donc ce gratin doit son nom à l'apothicaire Antoine Parmentier, qui, convaincu que le tubercule pouvait combattre efficacement la disette, le fit goûter à Louis XVI. Voilà. Et le mot plus général « hachis » désigne un plat dans lequel les ingrédients sont hachés, émincés ou broyés. Alors ce mets, qui est apparu au début du XXe siècle, a été nommé en l'honneur d'Antoine Augustin Parmentier, qui popularisa la pomme de terre en France, permettant à son pays de sortir du cycle famine-disette. François Zizé-Guerman, qui est un journaliste spécialisé, explique que le hachis parmentier serait né à Paris. Il retrouve ses lettres de noblesse dans de nombreuses brasseries de la capitale qui reproduisent à l'ancienne ce plat à base de purée de pommes de terre et de viande de bœuf haché. Certains chefs innovent avec de nouveaux légumes et aromates. Ce plat familial est traditionnel dans de nombreux pays. Il est également économique puisqu'il permet de récupérer les restes de viande d'un rôti, par exemple, ou d'un pot-au-feu aussi. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, on trouve un mets plus ou moins similaire nommé pâté chinois avec du maïs en plus. Au Royaume-Uni et en Irlande, un mets semblable préparé avec une couche de macédoine de légumes entre la viande et la pomme de terre, mais cette fois à la viande de mouton, se nomme Shepherd's Pie, donc tourte du berger, fait avec du bœuf. Le plat se nomme Cottage Pie, tourte du cottage. Le pâté chinois québécois pourrait être une variante de ce mets britannique qui prit une appellation locale. Ce plat était souvent donné aux immigrants chinois qui travaillaient sur le chemin de fer transcanadien. Et dans les régions du nord-est du Brésil, un plat voisin appelé escondidinho est préparé soit avec de la pomme de terre, soit avec du manioc. Et les viandes utilisées sont du hachis de bœuf ou de la viande séchée.
Ben merci Nathalie. Vous voyez hein, comme quoi on voyage dans cette émission.
Ouais.
Ah, quel bonheur. Ben écoutez, avant de poursuivre sur le dessert, je vous propose un peu de musique. On se retrouve tout de suite.
Juste pour voir qu'on donne à la vie des pourboires, pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir, on la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec vue sur une vie plus drôle. On pourrait donner tort à la mélancolie, on pourrait donner raison à nos douces folies. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton amour.
Cuisiner en direct avec Anne, dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici pour le dessert. Alors, je vous mets en garde pour ce dessert, parce qu'il faut prévoir au moins 2 fois 2 heures au frigo. Alors, je sais, c'est un petit peu long. Préparer peut-être la veille, voilà. Enfin, après, c'est à vous de voir. Mais ce gâteau-là, la tarte au choco grenade, c'est super bon à manger, parce que vous avez la grenade, vous avez le chocolat, ces différents arômes qui claquent en bouche. Moi, je trouve ça génial. Et puis vous avez évidemment le chocolat. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette recette qui est un peu longue, mais c'est que des parties de frigo qui sont longues. La préparation, donc vous avez deux fois 2 heures au frigo, vous avez 30 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Vous voyez, donc on n'a pas énormément besoin de beaucoup de préparation et de cuisson. Je vous rappelle les ingrédients pour que vous aurez besoin. Donc vous aurez besoin de 40 g de poudre de noisette, de 30 g de cacao non sucré, d'un jaune d'œuf, d'une grenade, de 110 g de farine, 90 g de beurre, 45 g de sucre glace, 270 g de chocolat noir, 200 g de crème liquide entière, alors pas 18%, hein, 35%, voilà. et puis au niveau matériel, vous aurez besoin d'un robot mixeur, de 2 moules à tarte, un moyen, un grand, je vais vous le dire pourquoi tout à l'heure, et puis un saladier, une casserole, un fouet, et puis un rouleau à pâtisserie ou une bouteille en verre, on en a parlé au tout début de l'émission. Alors c'est parti pour cette recette, vous allez d'abord verser le sucre glace et le beurre en morceaux dans la cuve de votre robot. Alors, vous pouvez le faire à la main, ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise le robot parce que c'est plus rapide, j'ai une pâte plus homogène et puis c'est surtout plus rapide quand on fait à manger. Vous allez travailler cette pâte hein, de sucre et de beurre pendant 2 minutes et puis après, vous allez rajouter la farine, la poudre de noisette, le chocolat, et les jaunes d'œufs mélangés. Et vous allez mélanger 3 minutes. Alors, si vous faites ça à la main, je vous explique comment faire. Vous mettez la farine, la poudre de noisette, le chocolat. Vous faites un petit puits. Merci Nathalie. Un petit puits. Vous mettez votre jaune d'œuf au milieu et vous mettez votre sucre glace et votre beurre et vous allez mélanger au fur et à mesure au milieu et le milieu est mélangé et au fur et à mesure vous allez ramener le puits, en fin de compte, va se refermer et ça va faire une pâte. Et c'est une pâte sablée.
Le beurre, il faut qu'il soit pas dur.
On est non. C'est à température ambiante. Un peu style pommade. Ouais. Hein, donc là, si vous le laissez 2-3 heures dehors, c'est bien, hein, même si vous chauffez à 18 degrés.
C'est
19. vous le laissez à température d'ambiance. L'important, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit dur, le beurre, de façon à ce que vous puissiez le malaxer. Voilà. Et pareil, vous malaxez pendant 2-3 minutes, de façon à que ça vous fasse une pâte bien homogène. Ensuite, que vous le fassiez à la main ou que vous le fassiez au robot, une fois que votre pâte elle est faite, vous allez le filmer et vous la laissez reposer 2 heures au frigo. Il faut vraiment qu'elle soit plus dure de façon à ce que vous puissiez l'étaler sans qu'elle se casse, parce que c'est elle risque d'être cassante. Ensuite, vous allez tapisser. Alors, moi, je prends un papier cuisson. Ce que je fais, c'est que je roule, je mets ma pâte sur le papier cuisson. Et je vais étaler ma pâte sur le papier de cuisson. Comme ça, je n'ai pas à en soulever, parce que bien souvent, elle est cassante, elle est collante. Moi, si elle colle sur le papier de cuisson, je m'en fous, puisque après, je mets dans le plat à tarte et terminé. Vous voyez ? Donc ça, c'est encore une astuce que vous pouvez utiliser. L'important, c'est que vous respectiez l'épaisseur de cette pâte, puisqu'on allez, vous comptez à peu près 3 à 4 millimètres d'épaisseur. Voilà, quand vous l'étalez. Vous mettez bien votre papier cuisson dans le moule et vous faites cuire ce qu'on appelle cuire à blanc. Alors, il y en a qui mettent dans le moule des petits grains
de haricots, ou
vous avez des billes. Vous pouvez mettre des billes aussi dedans. Moi, je fais pas ça. Voilà. Je mets donc ma pâte, elle est dans le moule. Je la recouvre d'un autre papier de cuisson et je mets le moule le plus petit dessus. Voilà, et je recouvre de... Alors, je mets un poids pour éviter que...
Qu'elle gonfle.
Genre un plat à gratin qui rentre dedans. Hein, mais vous n'êtes pas obligé. Elle ne gonflera pas forcément. Voilà, et elle gardera son épaisseur. Ce n'est pas de la pâte feuilletée. C'est de la pâte sablée.
Oui, hein, mais il peut y avoir peut-être des bulles qui se forment, non ?
Non. En général, la pâte sablée, non. Non. Mais l'important, c'est que l'intérieur de la pâte soit vraiment tout recouverte. Sinon, ça va elle va s'épaissir et vous aurez moins de. Après, l'épaisseur, c'est pas trop grave, puisque nous, ce qu'on recherche, c'est le croquant du sablé. Mais voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de mettre des billes, des graines dedans, vous pouvez. Moi, j'utilise ce système-là. Voilà. Et vous allez enfourner donc cette pâte, vous allez l'enfourner à 180 degrés, 15 minutes. Vous laissez, une fois que c'est cuit, vous allez laisser refroidir. Vous n'y touchez pas, vous la démoulez pas. Hein, donc vous la laissez bien refroidir entièrement. Pendant qu'elle refroidit, vous allez maintenant hacher et mixer le chocolat en tout petits morceaux. Et puis vous allez le placer dans un saladier. Et vous allez le faire chauffer dans une casserole la crème et sans la laisser bouillir. Ça, c'est important parce que si vous laissez bouillir votre crème fraîche, elle va se faire un petit peu style granulé. Elle va tourner, ce qu'on appelle tourner. Et puis, c'est pas terrible, quoi. Donc, une fois qu'elle est un peu chaude, alors, vous pouvez le faire au micro-ondes, ça peut être sympa. Mais il faut faire attention parce que le micro-ondes, ça va très très vite pour certains. Et là, c'est pareil. Hein. Si elle fait des granulés, vous pouvez l'acheter, hein, la crème. Elle n'est pas rattrapable. L'important, c'est que le chocolat, vous allez donc une fois votre crème, elle est un peu chaude, vous allez mettre petit à petit, donc en trois fois, moi je le fais en trois fois, le chocolat. Et à chaque fois, vous allez mélanger jusqu'à temps que votre chocolat est fondu dans votre crème. Donc ça, vous faites ça trois fois. Hein, voilà. Vous mélangez bien et pour obtenir une petite le chocolat et la crème, on appelle ça une émulsion. Et vous allez verser cette préparation dans le fond de votre crème, le fond de votre pâte qui est froide. D'accord, on est d'accord là-dessus. Que vous aurez évidemment démoulé, enlevé les papiers cuisson et mis dans une assiette de service. Parce que là, notre tarte, on est au montage.
Oui, elle est cuite, c'est bon.
Elle est cuite. Mmh. Vous allez voir, elle a légèrement bruni. Alors, avec la poudre de noisette, c'est un petit peu compliqué à voir. Mais vous allez voir, elle brunit assez vite. Les 15 minutes, c'est bien, hein, ça suffit de cuisson au niveau de la tarte. Donc cet ensemble, la pâte à tarte cuite et le chocolat avec la crème fraîche que vous avez bien mélangé, vous allez la laisser reposer 2 heures. Il faut que votre chocolat bloque, votre chocolat et votre crème bloquent. Si vous vous souvenez bien, c'est la base de la ganache.
Oui.
Et si en fin d'émission vous êtes très sage et qu'on a le temps, et je pense qu'on aura le temps, je vous donnerai la recette complète de la truffe.
Oui.
Des truffes plutôt.
Au chocolat.
Truffe au chocolat, on est bien d'accord. C'est pas le champignon, on n'est plus dans le champignon. Alors pendant ce temps-là, vous allez découper la grenade en quartier et vous allez l'égrainer en prenant soin vraiment d'éliminer les peaux blanches. Bien souvent, quand elles sont comme ça sur les marchés, vous avez les peaux blanches parce qu'ils ne les mettent pas forcément très très mûres. Oui. Donc vous éliminez les peaux blanches en les frottant. Hein. Une fois que la peau blanche, elle est enlevée, Vous allez donc au bout de 2 heures, vous enlevez votre tarte du frigo et vous allez parsemer votre tarte avec les graines de grenade et vous servez, voilà, c'est beau à l'œil, c'est délicieux en bouche parce que vous avez un côté chocolat, crème, noisette qui vous rappelle une pâte à tartiner. Et puis, vous avez l'acidité et le sucré de la grenade. Voilà, on est en saison de la grenade. Il faut savoir que la grenade ne se cultive pas forcément en France, mais qu'elle vient des pays chauds. C'est normal, il lui faut un peu de chaleur. Voilà, vous voyez, vous venez de faire une pâte sablée au chocolat. S'il vous reste de la pâte, vous faites des petits cœurs, des petites choses comme ça. Et puis, on vient de faire et de la pâte sablée et de la ganache. Et comme dans à peu près un mois, on est au moment de Noël, ben, ça peut vous donner des idées pour des gâteaux de Noël avec de la ganache. Mais ça, on reviendra à ça. En fin d'émission, on vous donnera exactement la recette de la ganache pour faire les truffes. En attendant, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire justement sur la grenade, qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Alors oui, la grenade, c'est le fruit du grenadier, de son nom Punica granatum, de la famille des Lyttaceae. Elle provient d'une aire géographique qui s'étend de l'Asie occidentale à l'Asie centrale. Les conditions pour les témoignages archéologiques concernant la grenade sont mauvaises, puisque le fruit est la plupart du temps consommé frais et que la peau riche en eau éclate lorsqu'on la chauffe. Comme des expériences le montrent, seules les vieilles grenades à la peau relativement desséchée ont une chance de se fossiliser et d'arriver ainsi jusqu'à nous. On a retrouvé une grenade fossilisée dans les couches du début de l'âge de bronze, dans le Tel el Sayed, en Jordanie, à la fin de l'âge de bronze, on fabriquait à Chypre et en Égypte des récipients en verre coloré en forme de grenade. Le bateau Uluburun, retrouvé en Turquie près de Kas, contenait des amphores chypriotes avec plus de 1000 graines de grenade. Et d'après les récipients, on peut le dater de la période du 14e au 13e siècle. Oui, c'est ça, au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ, dans la tombe d'un haut fonctionnaire égyptien de l'époque de Ramsès IV. On a retrouvé des grenades comme offrande funéraire dans le Tel Der Allah jordanien, dans la vallée du Jourdain. On a trouvé des grenades dans des couches de l'âge de fer en Allemagne. La présence des grenades est archéologiquement prouvée dans la ville de Constance au Moyen Âge. L'aire de la répartition de la grenade se situe en Asie occidentale et donc centrale. Les pays d'origine de l'arbre s'étendent de la Turquie au Caucase, donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, et du Tadjikistan, Turkménistan ou l'Ouzbékistan à l'est jusqu'en Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Dans le bassin méditerranéen et au Proche-Orient, par exemple en Iran, en Arménie, en Égypte, en Espagne, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Syrie, au Liban et en Israël, on cultive la grenade depuis des siècles. Actuellement, les principaux producteurs de grenade sont l'Algérie, la Tunisie, la Turquie, le Maroc, l'Égypte, l'Israël, l'Iran, on voyage là, l'Inde et l'Afghanistan. L'Espagne, la Turquie et l'Israël sont les principaux pays exportateurs. On trouve également d'importants vergers en Californie, aux États-Unis, au Mexique, en Chine, au Japon, en Russie, au Pakistan, en Irak, en Birmanie, en Arabie. En fait, on en trouve partout, sauf en France. Les fruits sont presque exclusivement destinés au marché intérieur. En Inde, la grenade est aussi cultivée comme condiment. Il y a quelques variétés de la grenade qui peuvent être transplantées dans des régions à l'hiver doux d'Europe centrale. Par exemple, un arbuste fleurit chaque année dans le jardin situé devant le musée des arts décoratifs de Budapest. Des exploitations agricoles existant dans le sud de la France quand même, dans le département du Gard en particulier, là où il fait chaud. Avec la colonisation espagnole, la grenade s'est implantée dans les Caraïbes et en Amérique latine.
Merci Nathalie pour cette culture, encore une fois. Là, on a sacrément voyagé.
Alors, je crois qu'on a fait tout.
Moi, de souvenirs, de mémoire, je peux vous dire que la grenade, on la trouve aussi en Sicile. Voilà. Moi, ceci dit en passant, Je vous dis ça parce que j'en ai ramené de Sicile au mois d'octobre, début novembre, j'ai ramené ça dans mes valises. Donc je peux vous dire que oui, on en trouve aussi en Sicile et en Italie. Et elles sont, quand on les ramène, je trouve que c'est toujours meilleur quand c'est dans le pays.
Ouais, bah oui.
Voilà. Voilà. Peut-être qu'un jour vous irez en Sicile. C'est une belle île à découvrir. Avec la France, évidemment. On ne trouve pas les grenades forcément à tous les coins de rue de la France, si vous l'avez bien compris. Et puis en ce moment, elles ne sont pas très chères parce qu'on est en pleine saison des autres pays. Eh bien, écoute, merci Nathalie pour cette belle histoire. Je vous propose qu'on se retrouve après une petite pause pour la suite de notre émission.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors, je vois que nous revoici déjà. On est de retour au plat. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais j'ai un bonus, même plusieurs bonus, puisqu'on est vraiment à un mois de Noël. Et pourquoi pas s'entraîner avec pour faire de la pâte sablée. Alors, je vous ai donné la pâte sablée chocolat, noisette, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi rajouter des zestes d'orange dans cette pâte. Donc, des zestes d'orange. Alors, pour le zeste d'orange, en fin de compte, vous le faites avec un économe. Vous l'épluchez avec un économe et vous le broyez au mixeur. Ça va tout seul. Et puis, vous pouvez rajouter dans votre pâte un petit peu de cannelle. Ça vous fait tout simplement des sablés de Noël. Vous respectez bien l'épaisseur de 5 mm quand vous étalez. Et puis vous coupez un sapin, un bonhomme, une étoile, voilà. Et vous faites cuire à peu près 10 minutes, un quart d'heure.
Ça va vite aussi, hein.
À 150 degrés. Là, puisque c'est des petits formats,
d'accord.
Donc 150
degrés.
C'est pour
ça que ça brûle chez moi, je le fais à 180.
Non, 150 degrés, ça
d'accord.
suffit. Et puis dès que c'est un petit peu coloré, vous arrêtez ouais. et en fin de compte, ça va durcir. Et ça, c'est des gâteaux, s'ils ne sont pas mangés tout de suite chauds, vous allez pouvoir les garder pendant 4 à 5 jours dans une boîte hermétique. Hein, voilà, s'ils ne sont pas mangés à la sortie du four, moi, c'est ce que je dis hein, en général. Voilà. Si vous souhaitez, vous préférez les sablés à la vanille, je vous rappelle un petit peu la recette qui est rapide. Vous allez prendre 50 g de sucre fin, 4 sachets de sucre vanillé. 125 g de beurre tendre, style pommade, hein, c'est exactement le même style de beurre qu'on va prendre pour cette recette-là, puisqu'on est dans la pâte sablée. 250 g de farine de blé et puis un œuf. Vous allez mélanger à la main dans un saladier ou dans un robot ce que vous voulez avec le sucre vanillé, le beurre et vous allez incorporer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la farine. Et puis vous allez mettre ça en boule. Il me manque un œuf dedans.
Oui.
Je viens de voir ma recette, il manque 2 œufs. Donc vous rajoutez 2 œufs et vous faites une boule et vous laissez reposer 15 minutes au frigo. Et une fois, et filmez surtout pour éviter qu'elle croûte, une fois que vous avez attendu bien vos 15 minutes, vous allez l'étaler avec une épaisseur de 5 mm et vous allez découper tous les sablés avec des emporte-pièces, avec le couteau. Voilà, c'est le moment de s'amuser, de s'éclater et de faire ça avec les enfants. Et vous mettez les sablés sur une plaque ou beurrée, farinée ou alors sur un papier cuisson, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et vous faites cuire 5, thermostat 5, 150 degrés environ, 10 à 15 minutes. Voilà, ça doit être légèrement doré et pas grillé. voilà, c'est une recette facile, en plus ludique à faire avec les enfants. Voilà. Allez, il me reste encore un petit peu. Si on dépasse, c'est pas grave. Théo va râler, mais c'est pas grave. J'ai tellement envie de vous donner cette recette. Donc, la recette de la truffe, des truffes. Alors, vous allez utiliser 250 g de chocolat noir de bonne qualité. Moi, j'aime bien. Choisissez un. Alors, moi, j'aime bien. Moi, j'ai du chocolat qui vient du Kenya, mais que j'ai été chercher au Kenya il y a très, très longtemps. Que j'ai gardé parce que ça se garde longtemps. Voilà, moi j'aime bien ce chocolat parce qu'il est fort épicé. Après, vous choisissez, mais il faut vraiment que ce chocolat soit de bonne qualité pour faire ces truffes. Du 100 g de beurre doux, un sachet de sucre vanillé, du 80 g de sucre glace et 50 g de cacao et de jaune d'œuf.
Cacao, vous, c'est-à-dire
cacao amer.
En poudre.
Oui.
D'accord.
Cacao en poudre amer. Excuse-moi, j'ai pas précisé. Alors, je ne dis pas la marque puisqu'on l'a vu un petit peu plus haut.
Oui.
Mais voilà,
c'est non sucré.
C'est pour l'enrobage.
Oui, c'est ça.
Alors, vous allez casser votre chocolat en petits morceaux dans un plat résistant à la chaleur. Moi, je le fais fondre au bain-marie. Donc, je mets mon saladier au-dessus d'une casserole d'eau chaude et je fais fondre tout doucement. En plus, après, j'incorpore progressivement le beurre en petits dés. Hein, je ne le mets pas entièrement et je mélange bien mon chocolat avec le beurre. Et quand le beurre il a bien fondu avec dans le chocolat, je retire le plat et je mets mes jaunes d'œufs. Je jette pas mes blancs. Parce qu'avec ça, je vais faire de la meringue. J'arrête pas de le dire, ne jetez pas vos blancs. Je rajoute donc mes jaunes d'œufs, le sucre vanillé, et puis qui va lui apporter un croquant. Parce que je ne mélange pas beaucoup, mais ça va le sucre vanillé, si vous le mélangez après, ça va apporter le croquant à l'intérieur de la truffe. Voilà, c'est une petite parenthèse. Si vous souhaitez une texture plus lisse, vous ajoutez 10 grammes de sucre glace et une gousse de vanille à la place du sucre glace.
Une
goutte de vanille. Ouais. Oui, c'est pas une gousse. Une goutte de vanille liquide à la place du sucre vanillé.
C'est ça.
Hein, on est bien d'accord. Voilà. Et puis, vous rajoutez le sucre glace. Vous mélangez bien le tout. Et vous mettez au frigo au moins une heure de façon à solidifier l'ensemble. Et ensuite, vous allez former vos petites boules de la façon dont vous voulez. Vous pouvez mettre conique, ronde, comme vous voulez. Et surtout, vous les passez, vous allez les rouler une fois qu'elles sont bien roulées dans vos mains. Vous allez les passer au cacao amer. Et puis, vous les disposez dans un plat et où vous les mettez, vous attendez bien qu'elles sèchent un petit peu parce qu'avec la chaleur, le beurre risque de refondre et le chocolat aussi. Et vous les parsemez de beaucoup de cacao et vous les laissez sécher. Et une fois qu'elles sont bien sèches, au bout de 20 minutes, une demi-heure, vous les mettez en petits sachets puis vous les offrez à vos grands-mères, à tous les gens que vous aimez. Voilà, c'est aussi simple que ça et ça n'a pas pris beaucoup de temps.
Et on peut faire une petite variante plutôt que rouler dans le cacao, par exemple dans de la noix de coco.
Mais oui, bien sûr. Voilà. Et vous pouvez même faire encore une autre variante. C'est plutôt que de mettre du cacao amer, pour ceux qui aiment bien le sucré, remettre du sucre en poudre. Sucre glace, le rouler avec du sucre glace. Vous pouvez faites ça avec des noisettes aussi, des noisettes concassées ou des amandes concassées. Enfin, soyez vraiment créatifs parce que la truffe, c'est côté chocolat amer. Moi, j'aime pas forcément ça, donc je vais moi plutôt la rouler dans le sucre glace. Là, c'est la recette de base. Après, vous vous éclatez. Vous pouvez même mettre un fruit confit à l'intérieur de la boule.
C'est vrai, c'est ce que je pensais, ou une noisette carrément.
Ou une noisette. Enfin, éclatez-vous et offrez ces truffes à Noël plutôt que de les acheter en grande surface.
Mais surtout que c'est tellement simple à faire.
Et puis c'est simple et puis c'est ludique. Enfin, quand on est plusieurs, on se marre bien.
Ouais.
On a du chocolat partout, mais on se marre bien. Voilà, écoutez, c'est la fin de notre émission. Voilà, déjà. Je suis triste, hein. Mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour et même heure. N'oubliez pas de faire et de refaire ces recettes avec vos amis et à partager ces recettes ensemble, famille et amis. Nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Prenez soin de vous. Bon appétit, bonne soirée. On vous embrasse.
Au revoir.
Au revoir.